Bien, d'abord merci et bravo. C'est un véritable régal que de vous avoir questionné ce matin sur ces questions pas faciles et qui ont été beaucoup bradées par les médias. Pour nous, un peu vite, quand on découvre votre contenu, on serait heureux d'avoir votre texte, si cela était possible, pour le revisiter ou l'interroger encore. Moi, en vous écoutant, et puisque vous parliez de parcours individuel, là, c'est pas la personne et son statut qui parle, c'est l'individu. Je suis une Flamande d'origine, donc en reconnaissance quand je suis à Bruges, à Bruxelles, mais aussi en reconnaissance quand je vais en Espagne, puisqu'il y a eu des va-et-vient, mais aussi en reconnaissance quand je vais en Italie, puisqu'il y a eu cette forte concurrence à la Renaissance italienne, et puis en même temps l'impression d'être en Italie, mais chez soi, et dans d'autres pays encore de l'Europe. En reconnaissance déjà, quand je pousse la porte d'un musée, je ne vais parler que de parcours muséum, un bâtiment néoclassique à peu près partout le même, avec ses colonnes, ses pierres, ce côté ostentatoire pour nous montrer qu'on rentre dans un musée. Bon, par contre, la première fois que je suis allée au musée Branly, j'ai été ébranlée. Excusez-moi, c'était pas prévu. Le lieu, l'itinéraire, la multiplicité d'objets, art ou pas art, objets fonctionnels, objets artistiques, enfin bon, une autre culture. Je le suis un peu moins quand je vais au musée d'Appert sur l'Afrique, peut-être parce que revisitant des œuvres vues dans les œuvres cubistes. Enfin, je veux dire, il y a des décalages comme ça culturels qui peuvent être très importants. Et pourtant, j'avais cette sensation de reconnaissance européenne en allant dans un certain nombre de musées. Donc voilà, je ne sais pas si par rapport à ça, vous pouvez m'aiguiller un tout petit peu dans mon questionnement encore.
C'est une question qui est complexe. Alors, je ne suis pas historien de l'art, donc je ne voudrais pas m'aventurer sur des sujets qui sont un peu difficiles. Pour être complètement honnête avec vous, j'avoue que j'ai une passion aussi assez limitée pour les arts premiers, pour le coup parce que j'ai une méconnaissance des arts premiers fondamentale, et que encore une fois le fait justement d'apprendre avant d'aller au musée n'est pas empêché par la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt le côté la bonne nouvelle. Je suis assez d'accord avec vous, c'est-à-dire que on arrive à identifier un espace européen commun, et ce qui fait la spécificité de l'Europe, ça a été probablement le fait d'être un capteur de culture, d'être à la fois un moteur de culture et un capteur de culture, et en même temps cette capacité à faire circuler les œuvres d'art. Pour donner un exemple de polémique qui avait paru un peu, qui est encore surprenante, c'est de voir le musée du Caire réclamer, je ne sais plus quel... c'était Nefertiti, le bus de Nefertiti, je crois, à Londres. Voilà, à la Grande-Bretagne. Et c'était à Berlin. C'est une question qui est très problématique, parce que c'est précisément une volonté de refaire d'un élément culturel, d'un élément artistique, un élément d'identité nationale. Mais le bus de Nefertiti n'est pas plus... Enfin, je vais être un peu provocateur en disant ça, mais à mon sens, n'est pas plus égyptien qu'il n'est européen. C'est-à-dire, c'est cette idée que il a été, il fait partie de notre culture dans la manière dont nous appréhendons finalement l'environnement dans lequel nous avons baigné, je crois. Sur les arts premiers, c'est plus compliqué parce que le prisme dans lequel nous rentrons fondamentalement, c'est une question. Alors là, c'est vraiment une question complexe. Je serais ravi qu'on ait l'occasion d'en discuter. Mais le rapport que la première porte d'entrée que nous avons avec les arts premiers, en fait, c'est celui du culte des images. C'est Freeman, je crois, l'historien de l'art américain, qui a publié un livre dans les années 70-80, qui s'intitule précisément Le culte des images, et qui s'interroge sur notre rapport au aux arts premiers, cette fascination que nous pouvons avoir aux arts premiers, justement, comme ce rapport que nous entretenons aux fétiches. Et on a un rapport finalement presque fétichiste à l'objet, mais dont on redonne la chair parce que on a besoin de le resituer finalement dans une cohérence cultuelle, dans une cohérence de fréquentation cultuelle de l'objet, parce que il ne fait pas sens pour nous dans justement cet héritage que nous partageons. Je ne sais pas du tout si ça répond à votre question, mais voilà, cette idée-là, sur la question des Flandres, c'est au moins, c'est en plus de beaucoup de choses, une qualité que nous partageons, puisque il se trouve que j'ai une partie de ma famille qui est aussi flamande d'origine, et les Flandres sont précisément l'exemple type et l'espace type de circulation à l'époque de la Renaissance, du fait de son appartenance aussi à l'Empire des Habsbourg, de circulation des œuvres d'art et de circulation des individus, où on retrouve en fait tout simplement aussi des influences orientales jusque dans les Flandres, parce que finalement les Espagnols, quand ils sont venus, et une partie des Espagnols quand ils sont venus dans les Flandres, sont venus pour échapper aussi à une certaine forme de pression qui était en train de se mettre en place, qui s'appelait l'Inquisition, et que les Juifs qu'on retrouve en Flandre sont des Juifs séfarades. Voilà, ça a fait partie de la construction de l'identité culturelle. C'est pour ça que j'aime bien cette image de Juif errant, parce que je pense que en fait, elle est vraiment très constitutive de ce que nous sommes. Nous sommes un espace de circulation.
Bon, juste deux ou trois remarques qui ne sont pas vraiment des questions, mais qui peuvent faire avancer la discussion, parce que je pourrais poser des questions un peu sur tout ce que vous avez dit. Si vous pouvez faire passer, je réitère la demande, si faire passer le texte. Alors, simplement sur le nationalisme au XIXe siècle, je prendrais simplement le cas de l'Allemagne, bon, qui me paraît très intéressant. Bon, ce sont les géographes allemands qui ont fondé la géographie politique allemande et la géopolitique allemande, Ratzel, etc. Et tout le projet finalement de Guillaume II, bon, au moment de l'unité allemande, bon, s'appuie sur les travaux de Ratzel, bon, qui manipule. Il n'est pas seul, hein, il n'y a pas que Ratzel, qui manipule complètement les théories de Darwin. Hein, bon. Et que Hitler aura qu'à reprendre ensuite ses travaux. Et quand on voit ce que Guillaume II, par exemple, a fait de Berlin, le projet de Berlin, faire de Berlin une rivale de Londres et Paris, ne serait-ce que le Pergamone, puisqu'on parlait de Néfertiti, bon, c'est tout à fait intéressant. Mmh. Bon, hein, il y a l'instrumentalisation de la culture, bon, qui est allée très loin dans le cas d'Allemagne, mais qu'on peut reprendre dans notre pays. Bon, c'est aussi Crispi en Italie au même moment, et en France, on n'est pas non plus totalement. Voilà, bon. C'était juste cette remarque. Alors ensuite, sur ensuite, vous avez terminé sur l'image du juif errant. Et moi, ça m'a fait penser, bon, aux Askénazes, aux intellectuels Askénazes, justement de l'entre-deux-guerres, bon, qui était cette communauté, bon, dans laquelle a circulé tout a circulé. Hein, bon, au niveau que ça soit, bon, je pense à Freud, je pense, bon, avant la guerre, si vous voulez, mais après, il y a eu dans l'entre-deux-guerres, etc. Bon, c'était une communauté qui préfigurait peut-être cette vie intellectuelle européenne. Bon, malheureusement, on sait ce qu'il en est advenu. Et j'ai pensé, si vous voulez, à la Pologne. Il se trouve que je connais bien la Pologne, non pas parce que je suis polonais, mais parce que je travaillais avec des historiens polonais. Et je pense à trois choses. Je pense à Zamosk, qui est une ville entre Lublin et Kiev, bon, pas très loin de la frontière entre la Pologne. Et quand on arrive à Zamosk, on voit une espèce de lubie. C'est un prince polonais qui est allé en Italie à la Renaissance. Bon. Et quand il est revenu en Pologne, il a fait construire Zamosk. Il y a une place italienne qui est largement, qui vaut pas mal de places italiennes de la Renaissance, bon, etc. À 50 km de Zamosk, vous avez Balzac. Qu'en extermination, vous pensiez à Weimar, etc. Bon, j'ai cet exemple pour la Pologne. Et puis, je pense que le cas de la Pologne aussi doit nous faire ajouter un paramètre dont vous n'avez peut-être pas mis dans votre conférence. C'est qu'entre l'Europe orientale et l'Europe occidentale, il y a deux rythmes différents. Bon, je vous donne juste un exemple, je termine, je ne veux pas monopoliser la parole. Je me suis retrouvé dans un colloque à Berlin en 2005, je crois, avec des historiens allemands et polonais. Sur la Première Guerre mondiale, et je suis allé dans le groupe de travail sur le front de l'Est. Alors c'était très intéressant, c'était une russe, juive russe, ancienne prof à Columbia, à Paris, qui a fait une interprète entre l'allemand, le polonais, le français, en fait, etc. Tout à fait intéressant. Et puis on a discuté très longuement, etc. Et tout d'un coup, les trois historiens polonais qui étaient là ont commencé à diverger complètement sur un certain nombre d'analyses sur le front de l'Est de la Première Guerre mondiale. Et en discutant avec eux, on s'est aperçu que un venait de Stettin, l'autre de Varsovie et l'autre de Cracovie. C'est-à-dire trois parties de la Pologne qui avaient été occupées au moment où la Pologne avait disparu, soit par l'Allemagne, soit par les Russes, soit par les Autrichiens. Bon. Et que donc, ils avaient, si vous voulez, en eux quand même, des analyses parfois différentes. Donc, ces empreintes avaient joué. Et qu'à ce moment-là, si vous voulez, le seul moyen de retrouver une unité, c'était de se dire polonais.
C'était de se dire, pardon ?
De se dire polonais.
Ouais.
Ouais. Donc, il y avait la dimension nationale qui restait forte, si vous voulez, à cause de ça. Voilà, c'était tout.
Non, mais c'est effectivement une question intéressante. Ça a été, je pense que c'est en plus une question qui est particulièrement sensible pour les Polonais. L'affaire des frères Kaczynski, quand ils se sont retrouvés à la tête de la Pologne, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que cette Pologne qui s'est retrouvée écartelée pendant des années entre des territoires différents et sous des influences différentes, qui finalement a très peu existé par elle-même, hein, puisque le dernier roi de Pologne date du XVIIIe siècle, me semble-t-il. Je ne veux pas dire de bêtises, là je parle vraiment sous le contrôle des historiens, voilà, c'est effectivement une question qui est forte et qui s'est retrouvée renforcée aussi très clairement par l'occupation soviétique, ça c'est évident. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir la manière dont les Polonais, et notamment les élites polonaises, ont évolué ces trois dernières années. C'est quelque chose de très très récent, et il faut quand même reconnaître à tout particulièrement à Donald Tusk, le Premier ministre polonais actuel, d'avoir joué un rôle fondamental dans cette évolution-là, c'est-à-dire d'avoir su amarrer la Pologne à l'Europe, et justement de l'avoir aidé à tourner cette page de conflit avec la Russie et de rapport de force avec la Russie. Cette espèce d'événement extraordinaire qu'il y a eu il y a assez peu de temps de commémoration des morts des fusillés merci de Kathleen, c'était où on voit pour la première fois le président russe accueilli par le premier ministre polonais. C'est il y a 5 ans, c'était pas possible. Il y a cinq ans, un événement comme ça a été absolument pas possible. Et que finalement, l'accident d'avion qui s'est passé l'année dernière et les réactions qu'il y a eu autour de l'accident d'avion auraient pu être bien pires il y a 5 ans et donner lieu à des brisures de relations diplomatiques entre la Russie et la Pologne qui n'ont pas eu lieu. Donc, je dirais que l'Europe a su réussir ça, et ça veut dire que la culture européenne, effectivement, elle existe. Pour aller aussi dans votre sens, je pense que oui, il y a une temporalité qui est très différente avec l'Europe de l'Est du fait de son histoire et notamment de l'occupation soviétique, ça c'est très clair, du rapport qu'ils ont eu à l'Allemagne aussi et de la façon dont ils ont vécu leur rapport à l'Allemagne. Mais finalement, quand on se promène sur quand on lit La Reine Margot de Dumas et qu'on suit le parcours de celui qui sera Henri III, dont on se rappelle qu'il a été roi de Pologne et qu'il a fui en courant à cheval pour pouvoir réussir à reprendre la couronne de France, on se dit que nos liens avec les liens que l'Europe de l'Ouest entretient avec la Pologne se jouent ici, ou que la place, je crois que c'est la place Saint-Stanislas à Nancy, rappelle très clairement aussi cet ancrage avec l'Europe de l'Est. Et c'est voilà, je pense qu'encore une fois que on arrivera et on construira une culture européenne plutôt qu'une identité, puisque vous avez bien compris que le terme me déplaisait particulièrement parce que je le trouve extrêmement complexe, comme l'ont fait les Polonais, et le rythme d'évolution des autres.
Vous parlez de la Pologne, effectivement, on peut citer aussi Michnik, là par exemple, qui a joué un très grand rôle. En particulier dans la réconciliation des Polonais et des catholiques et des Polonais juifs, qui a joué un rôle éminent et qui le joue toujours. Bon, le problème, c'est ce problème du rapport entre, parce que bon, la circulation de la culture chez les élites, elle a toujours existé.
Bien sûr.
Il n'y a pas de problème. Bon, Le problème ensuite, c'est aussi de faire du vertical. Quoi. Mmh. Et bon, et ça, c'est plus compliqué, quelle que soit l'époque.
C'est pour ça que j'insiste aussi sur le potentiel que peut nous offrir ce qu'on a appelé le divertissement de masse, qui est d'ailleurs une mauvaise idée, mais qui est à mon avis plutôt une culture populaire, enfin une culture plutôt indifférenciée, qui offre des potentialités extraordinaires. Il n'y a pas longtemps, j'ai expliqué, pour vous donner un peu une idée du type de généalogie qu'on peut faire, j'ai expliqué la chanson de Roland à une jeune fille qui était en première année de fac de lettres, essayer d'expliquer le problème de la temporalité dans la chanson de Roland. Non, pardon, c'était dans Chrétien de Troyes, donc je sais plus, mais en tout cas, c'est le problème justement de temporalité, de rupture temporelle, ou l'idée que l'idée qu'en fait on pouvait parcourir 300 km en deux lignes et puis recroiser exactement les mêmes personnes comme si on s'était pas quitté depuis 5 minutes. Cette idée de brisure de la temporalité, cette idée de tout simplement de l'ellipse, je suis passé par 24 heures chrono pour expliquer ça. Parce que la série télé, c'est l'horizon culturel premier. Et c'est un horizon culturel qu'il faut surtout pas jeter à la poubelle, parce qu'il y a des choses, des constructions, des rapports à cette identité, à ces crispations d'identité, à cette construction d'un patrimoine, à des questions conflictuelles, etc., qui se jouent aussi dans ces séries télé. Voilà. C'est quelque chose qu'en France, on a eu d'ailleurs du mal à comprendre, à soutenir ces choses-là. Mais par exemple, en Italie, la première série télé qui est regardée est sur la mafia italienne. Et elle met quoi? Elle met l'accent sur les conflits entre le Nord et le Sud, qui est le problème aujourd'hui en Italie. Et ces rapports qui sont quasiment des rapports de xénophobie, hein, qui sont d'une violence très forte, pas quasiment d'ailleurs, puisque les Italiens du Nord surnomment les Italiens du Sud des terroni, précisément. Des beaufs, des laboureurs, en fait. On revient à ça, c'est-à-dire à cette idée-là voilà. Donc, oui, c'est vrai que les élites sont parfois en avance, et souvent en avance dans cette circulation-là. Ça a été la grande force et la grande possibilité des États-Unis d'avoir cet espace de circulation qui a pu se faire de manière très facile et autour de ce modèle de l'American Way of Life qui permettait de construire justement ce melting pot où on pouvait accueillir des cultures différentes. Nous, on n'a pas à accueillir des cultures différentes, on a à vivre avec des cultures différentes qui coexistent. C'est quand même très différent comme mythologie, c'est-à-dire que notre mythomotricité, pour reprendre encore un terme de Sloterdijk, n'est pas la même, et nos enjeux sont pas les mêmes. Voilà, on vit avec ça. Et en fin de compte, c'est pour ça que j'insistais sur cette idée de libre circulation, elle se fait par les œuvres d'art, elle est permise par les réseaux, elle est permise par la culture de masse, par ces séries télé, par les liens qu'on peut faire entre des séries télé et éventuellement un livre ou un tableau, mais elle est aussi permise par cette libre circulation des personnes qui n'a jamais été connue en Europe pour tout le monde, si ce n'est aujourd'hui. Évidemment, pour le moment, c'est encore une minorité, et on ne peut que souhaiter que les uns et les autres puissent.
Une petite remarque là-dessus, donc, puisqu'on évoquait le bloc soviétique. J'ai relu des livres de donc Varlam Shalamov, mais il y a aussi les frères Sérapion, etc., qui parlent de ce qui se passait sous Staline. Donc, qui définit en fait une littérature européenne pour l'interdire. Et ce qui est très drôle, c'est que Varlam Shalamov raconte qu'il s'est retrouvé en prison parce qu'il a été dénoncé pour avoir des lectures européennes. Interdite donc. Donc il est en prison, et en prison, il a retrouvé la littérature européenne. Et donc là, il avait le droit, il pouvait lire cette littérature qui était interdite par le régime stalinien. Donc voilà, et j'ai retrouvé ça aussi dans Les Frères Sérapion, qui marque quelles sont mes bibliothèques. Donc il y a cette littérature européenne qui circulait dans les goulags, donc les lieux où on mettait les prisonniers et les livres interdits par la politique. Voilà. Donc il y a entre circulation, pouvoir et l'opposition entre la politique et les arts, quoi.
Je pourrais même, pour aller dans votre sens, donner un autre exemple, qui est celui de la Grèce, où les Grecs aujourd'hui sont très xénophobes. Hein. Ils sont avec l'étranger, ils ont des rapports assez complexe. Bon, ils subissent aussi le syndrome du tourisme dont je parlais tout à l'heure, mais ce rapport aussi avec la Turquie, qui est si conflictuel, est très étonnant dès qu'on écoute la musique grecque. Parce que la musique grecque est fondamentalement mes matinées d'influence turque. Et voilà l'exemple typique d'un espace de circulation de la culture qui est très net. Voilà, c'est cette idée de réseau-là.
Moi, c'était juste un témoignage pour rebondir sur ce que disait monsieur. Je vais régulièrement à Cracovie, en Pologne, et avec un polonais très limité, à une douzaine de phrases. Et je me débrouille en général. Avant, je me débrouillais par le biais du français, parce que je rencontrais pas mal de gens dits intellectuels. Le français était la langue première. Maintenant, je me débrouille, je parle anglais. J'ai moins d'occasion de parler français. Je parle maintenant l'italien et quelques bribes d'allemand. Et donc voilà ce que c'est Cracovie à l'heure actuelle. C'est pas que du tourisme de masse. Je déplore par contre le petit train touristique qui vous emmène dans le quartier juif. Parce que bon, il y a Birkenau au côté. C'est très complexe, mais c'est très, très, très mélangé. Voilà. C'était pour rebondir sur ce que vous disiez.
Mais je crois qu'on en a besoin, en fait. Je crois que pour le moment, on en a encore besoin. On a besoin d'avoir ce rapport-là à ces événements-là, parce que ça permet et ça crée une mise à distance. Aussi maladroite qu'elle soit, aussi maladroite qu'intellectuellement, on puisse avoir l'impression qu'on foule, entre guillemets, des terres sacrées. J'ai l'impression que c'est un passage obligé, si au moins ça nous permet d'avoir à l'esprit que ces événements sont là et font partie du patrimoine. C'est un coup dur pour l'humanisme. c'est très dur. Je suis assez d'accord avec vous. C'est à voir, c'est très très dur. À vivre, c'est assez dur. On a un peu l'impression de se promener. Mais d'une certaine manière, vous disiez Cracovie, c'est un endroit où on parle allemand, c'est un endroit où on parle anglais ou français encore un peu et polonais. Voilà, c'est cette richesse-là, mais qui est aussi le propre des grandes villes en règle générale. Je pense pas que ce soit une spécificité européenne. Vous allez à New York, vous entendez parler. Mais en tout cas, on a une capacité pour aller dans votre sens et pour reprendre aussi ce que disait Sloterdijk. Je crois que la spécificité de l'Europe, c'est justement d'être capable de renoncer au mépris. Et notamment au mépris des cultures, et je crois que c'est vraiment important aujourd'hui de le dire et de le répéter dans un contexte qui est le nôtre où on a quand même la tentation du repli et du protectionnisme sous toutes ses formes, qu'ils soient économiques, qu'ils soient culturelles, à tirer la sonnette d'alarme et à dire attention. À le tirer non pas avec une bien-pensance qui consisterait à dire que tout se vaut et que toute culture se vaut ou qu'on a le droit de dire tout ce qu'on veut sur la culture des autres, mais plutôt à dire que la construction d'un parcours se fait justement par ce mélange-là. Et ça, on sent aujourd'hui que ça devient de plus en plus difficile, que c'est un discours de plus en plus difficile. Nous sommes des vieilles nations, des nations qui sont parfois un peu fatiguées, et on a un penchant parfois aussi un peu naturel à ça.
Merci. Oui. Excusez-moi, je reprends la parole, mais vous avez parlé de Kant tout à l'heure. Alors bon, il y a la dimension culturelle, mais il y a aussi la dimension politique. Moi, je pense, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu un déficit des politiques depuis un certain nombre d'années ? Bon, puisqu'on a parlé de Kant, Kant, c'est quand même l'idée du contrat entre les citoyens et les gouvernants. Est-ce qu'au niveau européen, justement, il n'y a pas eu un déficit des politiques qui ont conçu cette Europe essentiellement quand même comme une Europe économique ? Bon, éventuellement, un peu de culture, des projets comme Erasmus, etc. Mais moi, j'ai l'impression que tout l'aspect culturel les ennuie un peu actuellement. Et la deuxième chose que je reprocherais aussi aux politiques, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui va mal dans son propre pays, on trouve les responsables très rapidement à Bruxelles. Voilà. Et je pense pas qu'on puisse séparer le politique et le culturel là-dessus. Bon, c'est un peu mon sentiment.
Alors, pour répondre à votre question, d'abord, je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'il y a un problème de rapport que nous pouvons entretenir à l'Europe, en grande partie parce qu'on ne sait pas quel rapport entretenir avec cette Europe-là. enfin avec l'Europe en règle générale. C'est-à-dire que on a cette facilité de l'intergouvernemental, et clairement c'est un choix des politiques aussi de vouloir s'accrocher à cette zone-là qui comprennent, et tout simplement parce que c'est aussi le lieu d'exercice de la souveraineté premier, hein, puisque vous parliez de contrat, toutes les théories du contrat insistent bien sur cette transmission de souveraineté, et qu'aujourd'hui on a du mal à parler d'un espace souverain européen, et que je ne crois pas que ce soit le choix de tout le monde. Aussi parce que cette souveraineté-là, on l'a associée fondamentalement à ce volet culturel. Sur la question de la politique culturelle, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de politique culturelle européenne, mis à part Erasmus et éventuellement les capitales culturelles? C'est parce que, la culture, en fonction des États membres, n'est pas nécessairement de la compétence de l'État. Donc le transfert de souveraineté s'exerce de manière très très problématique sur ce sujet-là. La France a une politique culturelle qui est forte, a une implication dans les politiques culturelles qui est forte, qui a à la fois le mérite de soutenir la création artistique, mais qui peut en même temps avoir tendance à soutenir une forme de conservatisme. Vous allez en Suède, vous allez en Grande-Bretagne, il n'y a pas de politique culturelle, ça n'existe pas. Il n'y a pas de ministère de la culture en Grande-Bretagne, hein, parce que c'est le British Arts Council qui gère les financements de la culture. C'est un organisme indépendant et c'est pas un organisme étatique. Et en Angleterre, ce qui prime d'abord, c'est la loi de l'offre et de la demande. Mais les Anglais ou les Américains qui ont fonctionné sur ce mode-là ont été capables de promouvoir des expositions extraordinaires ou des accès à l'art extraordinaires qu'on n'a pas vu chez nous. Donc c'est voilà, la dimension culturelle, c'est elle est complexe sur une idée de politique, forte au sens d'intervention de l'État, parce qu'elle donne aussi lieu à la création de corps constitués et à la gestion de ressources humaines qui peut être parfois un peu figée. J'ai plein d'exemples en tête, je m'abstiendrai de les donner, mais en gros, je pense que c'est vraiment, l'objet de conflictualité assez fort. Après, au niveau européen, je pense que la culture européenne émergera à partir du moment où on acceptera une forme de transfert de souveraineté avec un débat collectif et transnational. Et ça, pour le moment, on s'en donne pas les moyens.